Hey, tampoco va la tuque truca tuque tac tuque toca tuque diga tuque raga tuque digo raguna na bebe mi luca petit capuru en cueli coba tuque truca tuque tac tuque toca tuque diga tuque raga tuque digo raguna na bebe mi luca petit tampoco va la tuque truca tuque tac tuque toca tuque diga tuque raga tuque digo raguna na bebe mi luca petit capuru en cueli coba tuque truca tuque tac tuque toca tuque diga tuque raga tuque digo raguna na bebe.
Quand la voiture quitte Jonquière, il flotte dans l'air autant d'excitation que d'appréhension. À l'avant, son père n'arrête pas de parler. Tu as vu ce Carignan, là, au pied du Rocher des Vierges ? Il faudrait qu'on se renseigne, peut-être il serait vendeur. Lui, au volant, hoche la tête, mais il sent bien que ce n'est pas là, sur ces terres où se sont succédés ses ancêtres, qu'il va faire sa vie de vigneron. Sa mère, assise à l'arrière, semble le savoir aussi. Elle ne dit pas un mot, les mains agrippées à son sac sur ses genoux. La route sable interminable. Clermont-Lérault, Nébian, Lézignan-la-Sèbe. Son père se met à raconter toute l'histoire de l'AOC Clairette du Languedoc, une vraie réussite du syndicalisme viticole. Pézenas, Valros, Béziers, ici il y en a des vignes à vendre. Mais non, la plaine à ce point, pas un brin de relief, pas un rocher où le regard s'accroche, ce n'est pas possible. Nissan, Narbonne, son père a déplié une carte pour trouver l'embranchement qui monte au domaine. La voiture s'engage sur le chemin de la Couleuvre, la route se cabre, tortueuse, il sent sa mère se raidir. C'est isolé quand même. Oui, mais qu'est-ce que c'est beau ! S'entend-il rétorquer. Il sent une vibration, une énergie. À chaque virage, il découvre une nouvelle vigne, lovée dans un vallon, au pied d'un éperon rocheux, bordé de haies et de pinèdes. Ils ont arrêté la voiture, sortent un peu pour tâter le sol, humer l'air chargé d'embruns marins. La mer est juste derrière. De ce plateau, on doit la voir. Il a du mal à cacher son enthousiasme. Il regarde ses parents, cherche leur assentiment dans leurs yeux. Là-bas, il y a les racines, la maison familiale. Mais ici, il y a de quoi réaliser un rêve. Adicias Bravemunde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Glouglou sur Radio Pays d'Hérault, RPH Sud et sur Radio Languedoc Narbonne. Nous sommes aujourd'hui dans le studio de Radio Languedoc en compagnie de Christophe Bousquet, domaine Pêcheredon dans la Clape à Narbonne. Adicias, Christophe.
Adicias.
Et pour nous aider à découvrir votre travail et vos vins, je suis accompagné aujourd'hui de Thierry Guichard de la cave à vin La Part de l'Ange. Adicias, Thierry.
Adicias.
Et de Frédéric Lambeuf, le Picamandil à Puissalicon. Adicias, Fred.
Adicias.
Frédéric Lambeuf, de quoi allons-nous parler aujourd'hui dans votre chronique du verre à l'assiette ?
Alors, on ne va pas parler du vin aigre, mais du bon vinaigre, celui de la Guinée dans le Roussillon.
Très bien. Et vous, Thierry Guichard, à qui avez-vous écrit aujourd'hui ?
Eh bien, j'envoie une lettre ouverte à Jean-Claude Pirotte, qui était écrivain, peintre et poète.
Très bien. Nous retrouverons vos chroniques un peu plus tard dans l'émission. Pour le moment, je me tourne vers notre invité, Christophe Bousquet, à qui je pose la première et rituelle question de l'émission. Alors, pour vous, c'est quoi un vin nature ?
Très difficile à dire, mais les bases du vin nature, c'est un vin qui n'a pas d'intrant.
D'accord. Et vous, c'est ce que vous faites depuis un certain nombre d'années ? On va le découvrir.
Je ne me revendique pas nature, mais je ne rajoute pas grand-chose dans mon vin, si ce n'est un peu de soufre au moment de la mise en bouteille.
Très bien. Vous avez une approche très liée à, justement à cet environnement, à l'environnement en général, le respect de l'environnement, la conscience du climat, et puis cet environnement particulier du massif de la Clape dont on va parler. Mais avant de parler de votre travail, de vos méthodes culturelles et de vinification, je vous propose que l'on parle un peu de vous et de votre parcours, dont j'ai imaginé l'arrivée dans la Clape. Vous nous direz si ça s'est passé à peu près comme ça, mais on va remonter un peu avant. Vous êtes justement, Christophe Bousquet, donc né à Jonquière, près de Clermont-Lérault, dans une famille de viticulteurs vignerons de plusieurs générations.
Oui, tout à fait. Je pense que du côté de mon père, ça doit remonter le dernier acte, enfin, le plus vieil acte de propriété remonte à 1789, comme souvent. Je pense que c'est bien trois siècles de viticulture. Ouais.
Voilà. Et du côté de votre mère, dans un autre coin de l'Hérault
Coin de l'Hérault, plus la plaine, plus proche de l'appellation Picpoul de Pinay aujourd'hui. La famille de ma mère était originaire de Montagnac. Et donc, avait une propriété juste au-dessus de l'étang de Thau. Et là, ça remonte beaucoup plus loin, puisque je pense que mon grand-père était remonté jusqu'à 1620.
Donc, une famille de lignées de viticulteurs, de vignerons. Et pourtant, quand vous êtes ado, même si votre père, vos oncles, vos deux grands-pères sont viticulteurs, quand vous êtes lycéen à Clermont-Lérault, tout semble vous destiner à continuer. Mais ce n'était pas si évident, vous. À cette époque, vous n'étiez pas si sûr que ça de faire ce métier-là ?
Non, pas du tout, parce que mon père était en cave coopérative, j'avais pas une fibre spéciale pour la viticulture. Bon, je la vivais au quotidien, mais souvent c'était presque plus une punition qu'autre chose d'aller travailler dans les vignes. Et puis je faisais des études scientifiques à Clermont-l'Hérault et j'étais plus attiré par un milieu de l'art que par le milieu de la viticulture, pour être clair.
D'accord, donc ça n'a pas été d'un coup, vous avez même imaginé à un moment donné poursuivre dans le sport, je crois.
Tout à fait, oui.
Voilà, mais au moment de passer votre bac, poussé un peu par un peu plus dans vos retranchements sur qu'est-ce qu'on va faire après, c'est ça. Et d'ailleurs, à cette époque, vous aviez l'exemple de quelqu'un qui avait fait ce choix, qui était Olivier Julien, ami à vous, à Jonquière, qui lui avait déjà démarré, alors peut-être que... Cet exemple-là, comme parmi d'autres, vous a incité à faire ce choix-là.
Je pense que ça a joué un peu parce qu'on a des relations très très fortes ensemble et que ça m'a un peu peut-être réorienté vers le métier et puis surtout sur le métier de la vinification, sur le métier de vigneron, alors qu'on était plutôt une famille de viticulteurs en cave coopérative et qui se bornait à cultiver des vignes, ce qui n'est pas en soi une mauvaise chose, mais ce qui m'attirait un peu plus, c'était le côté vinification, donc, création.
C'est ça qui vous a permis de faire le déclic, de se dire oui, ça peut me plaire avec cette partie-là, où
oui,
vous parliez de l'art, il y a une partie créative aussi.
Il y avait une partie de lien avec la nature qui pour moi était très important et puis aussi peut-être les renseignements techniques autour de la filière parce que quand j'étais à Clermont-l'Hérault au lycée je savais pas qu'il existait un diplôme d'œnologue qu'on pouvait faire en BTS viticulture œnologie et donc comme Olivier l'avait fait juste avant moi ça commençait à me dire bah tiens il y a vraiment une filière une filière technique appropriée et là pour le coup ça a attiré mon attention.
Donc ça a mis fin à vos tergiversations. Et après le bac, vous avez finalement donc décidé de vous inscrire dans un BTS donc Viti Eno à Montpellier.
Oui.
C'est ça. Plus après diplôme national d'œnologie, le DNO.
À la faculté de pharmacie de Montpellier.
À la faculté de pharmacie de Montpellier. Et donc là, ça y est, vous êtes donc parti pour être vigneron. Et à la fin de votre BTS, vous faites un stage dans les pas de votre père, puisque votre premier stage c'est à la cave coopérative de Saint-Saturnin.
Oui, tout à fait.
Et alors, comment vous vivez à ce moment
Je découvre un monde. Je découvre un monde. J'ai jamais travaillé dans une cave. Je sais pas comment. Enfin, je sais plus ou moins comment on fait du vin, mais je découvre la technique qui consiste à transformer du raisin en vin avec tous les procédés, toutes les techniques modernes qui étaient déjà, parce que c'était une cave coopérative qui était assez en avance sur son temps. Et puis je réalise aussi la logique du collectif en coopérative et avec ses bons et ses mauvais côtés.
Et d'ailleurs, vous en tirez quand même conclusion que c'est pas là que vous voulez être exactement, mais vous voulez faire votre vin, quoi. Pas seulement porter vos raisins dans le collectif. Et donc vous décidez de chercher des vignes.
Oui, parce que j'ai la sensation qu'en fait, on n'a fait qu'une partie du boulot et que finalement, tout l'investissement, les efforts qu'on a fait à la vigne, on ne les voit pas finalement, ils sont noyés dans la masse. Et j'ai envie d'un peu plus de création et d'identité, quoi.
Alors ce qui est beau dans votre parcours, émouvant, et que j'ai retenu pour l'introduction, c'est que souvent quand on raconte des histoires... comme la vôtre, on raconte des histoires de transmission, d'héritage. Mais vous, quand vous décidez de faire votre vigneron, il n'est pas encore question d'héritage, puisque votre père était encore actif. Voilà. Et donc il fallait d'autres vignes. Mais ce qui est beau, c'est qu'il décide de vous accompagner dans cette recherche, et même vous envisager ensemble de constituer un domaine que vous porterez ensemble.
Oui, parce qu'en fait... On part sur un format en se disant je vais trouver des vignes, je vais m'installer. Et puis mon père a dit bon, moi je garderai mon vignoble. Puis après, on envisage de fusionner si on trouve d'autres vignes en disant de toute façon, on ne peut pas vivre à deux familles ou en tout cas à deux vignerons sur si peu d'hectares. Bon, aujourd'hui, c'est le cas, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et comme on est dans un secteur qui marche bien, il y a très peu de vignes à vendre. Il y a des petites vignes qui se vendent à droite à gauche, mais il n'y a pas de quoi constituer un vignoble assez facilement. Et mon père envisage clairement de vendre son vignoble et de m'aider à m'installer et de se dire ben, on prend un domaine qui, sur lequel on pourra travailler ensemble, lui avec son expérience viticole et moi avec ma formation d'œnologie.
Et un jour, il arrive avec une petite annonce qui vous met sous les yeux.
Oui.
Le domaine Pêcheredon, la Clape à Narbonne, un endroit.
Il y en avait deux. Ah, il y en avait deux. Le deuxième, je ne citerai pas parce qu'il est très connu aussi. Mais on va voir les deux et on s'était mis à la sortie de. J'étais pas encore sorti de l'école d'œnologie, j'y rentrais. On s'était mis comme limite, c'était de rechercher sur un an. Et donc tous les week-ends, on allait voir des domaines qui étaient à la vente ou qui étaient susceptibles d'être vendus. Et on va voir Pêcheredon dans la Clape. Moi, je ne sais absolument pas où se trouve le massif de la Clape. Je pense que j'étais jamais allé à Narbonne. Et donc, on y va. Et c'est assez proche de ce que vous avez raconté. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Oui, on arrive, on monte la couleuvre, on arrive à l'entrée du domaine et on se dit, ouais, quand même, voilà.
Voilà, le coup de foudre.
Ouais, moi je pense.
Le terroir.
Ma mère, c'est sûrement pas un coup de foudre.
Oui.
Mon père, c'est une réflexion plus professionnelle, je dirais. Il a beaucoup de responsabilités dans la viticulture et connaît bien le milieu. Moi, c'est juste le coup de foudre. Je me dis, si je peux faire mon métier là, voilà, ça fait déjà beaucoup de cases cochées, quoi.
Et ce qui est beau, c'est que donc vos parents, à la cinquantaine, décident de quitter la maison familiale, Jonquière, et de vous suivre dans cette aventure-là.
Mon père quitte la maison dans laquelle il est né,
et
la maison que mon arrière-grand-père a construite. Donc, c'est un sacré truc, je pense. Enfin, je l'imagine parce qu'à cette époque-là, moi j'ai 22 ans, hein, lui il en a 50 et quelques, et 50 tout pile. Et oui, ils font ce choix-là de vendre tout le vignoble, de vendre la maison et de faire le grand saut.
Donc on est en 1988 et vous arrivez ici. Alors l'année 1988, elle est particulière à plus d'un titre. D'abord parce que vous faites encore deux vendanges ici et donc à la Clape et à Jonquière, le temps d'une transition.
Oui.
Et à ce défi s'ajoute celui d'apprendre donc un nouveau métier, celui de faire et de vendre du vin.
Tout à fait. Alors j'étais formé pour le vendre, non, pas du tout. Donc je découvre alors. Pendant toutes mes études, j'ai essayé chaque été en boulot d'été de faire un peu tous les secteurs du vin. Et je me rends compte assez rapidement que je suis quand même plus à l'aise dans une vigne ou dans une cave qu'à faire un commercial. Mais bon, là, on va falloir s'y mettre.
Et au cas où cela aurait été trop facile, juste avant d'acheter Pêcheredon, vous êtes appelé au service militaire.
Oui.
Si bien que les vendanges arrivent de 1988 et vous n'êtes pas sûr de pouvoir être en cave.
Exactement. Je suis appelé sous les drapeaux, comme on dit, en cours d'année œnologie. Et je suis obligé de quitter l'école d'œnologie, de rentrer à l'armée. Et je fais une demande de libération pour faire les vendanges, parce que c'est mon premier millésime. Et je suis pas pêcheredon, je suis à Montpellier, à la caserne. Et je suis libéré 2 jours avant de faire les premiers chardonnays.
Il a fallu faire des pieds et des mains pour arriver à être libéré. Et démarrer ses vendanges. Alors, est-ce du fait de ces circonstances? En tout cas, je crois que vous gardez un souvenir exceptionnel de cette première vendange.
Oui, exceptionnel, parce que d'abord, commencer par un millésime comme en 88, c'est quand même du pain béni. Hein. J'aurais pu commencer à 87, qui était quand même beaucoup plus compliqué. Et ça se passe peut-être trop bien, en tout cas comme dans un rêve. C'est-à-dire que tout va bien, quoi. Les raisins sont beaux, la récolte est belle, les vins sont magnifiques, tout se passe bien à la cave. Enfin, on en arrive presque à se dire, bon, finalement, pas très compliqué, quoi. Les millésimes qui suivront nous ramèneront un peu plus à la réalité.
En effet, notamment, vous m'avez évoqué le millésime 92, où un épisode de Cévenol vous a fait toucher du doigt tous les risques qui étaient associés à ce métier. Quoi.
Oui.
C'est vrai qu'il n'y a plus la coopération, le collectif pour protéger, là, tout d'un coup. C'est la famille qui doit tout gérer, assumer tous les risques.
On vendange 3 vignes, et l'orage commence à 20h et s'arrête à 8h du matin, et il est tombé un an de pluviométrie en 8h. On perd 50% de la récolte, il y a des dégâts énorme dans le vignoble, et là on touche du doigt la précarité de ce métier et l'humidité qu'il faut avoir vis-à-vis de la nature.
Mais vous avez eu tout de suite la reconnaissance de vos vins, ce qui a permis d'accélérer la structuration et la montée en puissance du domaine. Qu'est-ce que vous avez fait? Il fallait quand même un peu structurer cet outil de travail. Vous avez décidé de planter. Enfin, vous étiez tout de suite dans le faire évoluer, le domaine.
Oui, oui, oui. On est arrivé en 88. Dès 89, on restructure une partie du vignoble. On replante, on arrache quelques vignes. On essaye de le dimensionner pour la logique AOC Languedoc et AOC La Clappe. On fait évoluer l'outil de vinification. On essaye de se mettre aux normes de ce qui va être un peu la norme des années 90. Et on a des bons résultats et les vins sont très très bien accueillis. Même si c'était un domaine qui avait déjà une réputation, un marché, on n'était pas venu complètement à l'aventure. On savait que c'était un domaine qui avait une réputation, qui vendait déjà beaucoup à l'export. Et c'est la particularité de cette époque, c'est qu'on est dans les années 90 plus facilement connu à Bruxelles et à Montréal qu'à Montpellier, quoi.
Plus de 30 ans après, quelle leçon tirer de cette aventure? Je crois que vous avez notamment mesuré combien la vigne requiert du temps et que ça prend une vie entière de construire un domaine.
Inévitablement, c'est un temps long pour deux raisons essentielles. La vigne s'exprime pleinement quand elle a au moins une dizaine d'années. Et ensuite, on fait qu'un millésime par an. Donc on apprend à connaître son terroir, on apprend à comprendre ses vignes, on apprend nos vinifications et malheureusement on n'apprend qu'une fois par an. Donc il faut du temps et c'est ce que j'essaye d'expliquer aux jeunes vignerons que je rencontre, c'est qu'on ne peut pas brûler les étapes en viticulture, on a affaire à la nature. Donc il faut lui laisser le temps, il faut essayer de la comprendre si on veut vraiment être dans l'expression du terroir et si on veut... Moi, je dis qu'un vin, c'est un tiers de technique, un tiers de terroir et puis un tiers de l'homme qui le fait. Hein.
Et vous parlez des millésimes, vous qui en avez quand même quelques-uns derrière vous.
35.
Voilà. Vous arrivez à vous en souvenir un par un? Là, vous disiez 87, c'était pas terrible, 88, c'était magnifique.
Alors, j'ai fait un truc pendant 25 ans, j'ai tout noté. Alors, je m'aperçois que je note de moins en moins. Je ne sais pas si c'est par flemme ou par assurance, mais quand je reprends mes cahiers de cave des années 89, je notais absolument tout.
Tout ce qui s'était passé dans l'année
Dans la journée.
De la récolte
De la récolte et du reste de l'année.
Ah oui, d'accord. Jour par jour.
Jour par jour. Ah ouais. Comme je l'avais vu dans les cahiers de mon grand-père, hein, ouais. C'est-à-dire tel jour il a plu, tel jour il a fait du vent, ouais. Tel jour j'ai taillé comme ça, pour essayer de me faire un cadre de repère. Et parce que un vieil œnologue, enfin un œnologue âgé, on va dire, de l'époque, m'avait dit il y a toujours un millésime qui ressemble à un autre, mais des fois il est très très loin en arrière. Et donc c'est bien d'avoir un repère comme ça et de dire bah, tiens, ça ressemble à tel millésime. Cette époque-là, qu'est-ce que j'avais fait, comment j'avais fait, eh ben, c'est toujours mieux de l'avoir noté parce qu'on n'a pas forcément tout en tête. Mais j'ai noté énormément de choses pendant des années. Ouais.
Très bien, mais on va, au cours de l'émission, détailler comment vos pratiques ont évolué, tout ce que vous avez exploré à la vigne comme à la cave. En attendant, je me tourne vers Thierry Guichard. Thierry, est-ce que, avant de faire votre chronique, vous auriez une question subsidiaire à poser à notre invité sur
son parcours ? C'est peut-être une question un peu aussi sur les millésimes, parce que ton ami Olivier Julien a publié il y a 7 ans, je crois, ou 6 ou 7 ans, un livre qui se clôt par une verticale. C'est-à-dire qu'on va goûter tous les vins depuis l'origine de son domaine, donc Mas Julien. On va goûter tous ces vins. Vous êtes une dizaine, donc, puisque tu fais partie des invités, et vous allez goûter tous ces vins et à chaque fois vous racontez qu'est-ce qu'il y a eu comme météo, etc. Comme si tout à coup le vin était un moyen de rencontrer l'histoire. Est-ce que tu as fait la même chose avec lui? Est-ce qu'il est venu à Pêcheredon? Est-ce que vous avez fait des verticales et est-ce que vous avez échangé? Et est-ce que c'est important pour toi d'échanger avec d'autres vignerons sur tes propres vins?
Ah oui, c'est primordial. C'est primordial. Je crois que la pire des choses, c'est de goûter que ces vins tout seul. Il faut goûter avec les autres, il faut goûter avec ceux à qui on a confiance sur le jugement et sur le côté sans filtre. Il faut qu'on se dise les choses. Sinon, on tombe vite dans la caricature ou dans une assurance qui est la chose qu'il ne faut pas avoir dans ce métier-là. Donc oui, on le fait régulièrement. C'est important de regoûter les millésimes anciens pas uniquement pour le côté est-ce qu'il a bien vieilli, est-ce qu'il a bien évolué, mais d'essayer de faire un lien avec ce qui s'est passé cette année-là et comment on l'a fait. Parce que nos vinifications évoluent. Parce que mine de rien, on a le goût qui évolue, on a des tendances, on essaye de les suivre sans trop non plus être en dehors de nos objectifs ou de nos envies. Donc il faut qu'on regoute de temps en temps et puis c'est toujours un moment d'émotion parce que finalement, les millésimes, ça jalonne notre vie, quoi. Donc, quand on revient sur un millésime 20 ans en arrière, ben, on revient 20 ans en arrière de notre vie. Donc, on n'a pas les mêmes sensations, les mêmes envies à 25 ans, à 35 ans, à 45 ans. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qui ressort souvent, c'est que finalement, malgré les vinifications, malgré les styles, malgré les assemblages, il y a toujours un fil conducteur. Et ce fil conducteur, finalement, on le trouve du début jusqu'à la fin. C'est notre style, notre terroir et notre vision du vin. Et tant qu'on a ça, je pense qu'on est dans le vrai.
Très bien. On va quitter Pêcheredon quelques instants. Thierry Guichard, vous avez la parole. Vous avez écrit aujourd'hui donc à
Jean-Claude Pirotte, prince des buveurs et fils de la nuit.
Nous vous écoutons.
Mon cher Jean-Claude, je pense souvent à toi depuis que tu nous as quittés. Tes livres sont toujours à portée de main dans ma bibliothèque, dans lesquels je vais picorer des lumières sur des paysages flamands, des phrases troussées comme des premières communiantes au bal des pompiers, des promesses de grande beuverie. Et puis tu es là aussi dans des souvenirs qui remontent au siècle précédent. Mais n'empêche, ça fera bientôt 8 ans que tu nous as quittés et tu manques énormément. Pas à moi, vieux camarade des veilles de lendemain de fête, mais à nous, à ce monde qui aurait tant besoin qu'un type comme toi revienne lui secouer l'entendement. J'aimerais, comme tu l'écrivais dans tes Contes bleus du vin, paru autant qu'il fait, que tu sois en train de nous écrire d'un bistrot lointain. Pour nous donner, par exemple, des nouvelles du curé de Marsannay que tu as dû retrouver là-haut, si Dieu a pensé à y ouvrir un bistrot. C'était un curé prodigieux que le curé de Marsannay, écrivais-tu. Prêtre exemplaire, aristocrate et viticulteur. Un authentique bourguignon, les manières d'un duc d'Orléans, l'esprit frondeur du président des Brosses, qui nul ne l'ignore, était dijonnais. « Il faut tout cultiver », me disait-il, « surtout la vigne ». C'est lui le curé qui t'a initié au Grand Bourgogne, quand il t'entraînait, écris-tu encore, vers le spectacle éblouissant de sa vigne jaune et rouge, là-bas, entre les petits Vougeot et les Borniques, au pied de la Combe d'Orvault. Et nous regardions flamber, écris-tu, sous le soleil déclinant, les rangs doucement galbés des amoureuses de monsieur le curé. « Contemple, murmurait mon mentor, la grâce et la couleur de cette vigne, et puis regagnons notre cure, afin de perpétuer en trinquant, souviens-toi qu'en Bourgogne on trinque, la profondeur de notre recueillement. Perpétuer en trinquant la profondeur de notre recueillement, si tu savais, Jean-Claude. Je me souviens encore d'une nuit passée avec toi et quelques poètes d'Outremeuse, il y a 25 ans. Notre nuit avait commencé un vendredi après-midi pour s'achever vers midi, le mardi suivant. On avait vidé la cave d'un restaurateur du Zès, descendu quelques quilles de whisky irlandais à Montpellier, avant d'aller tâter du Sancerre en jouant au billard dans un grand hôtel de la région, où les autorités t'avaient invité en qualité de grand écrivain. J'avais admiré le flegme du maître d'hôtel quand, au matin, nous demandant ce que nous voulions prendre au petit déjeuner, café, thé, tu avais déclaré « nous allons rester au Sancerre ». Cette vie, si tu savais, Jean-Claude. Quand je t'ai rencontré, tu venais, je crois, de perdre un rein. Un bout de foie aussi, me semble-t-il. Il te manquait une jambe, mais ça ne se voyait pas d'abord. Et à Montpellier, ton ami, le poète Verheggen, sortait d'un triple pontage coronarien effectué à l'hôpital de Namur. Il levait avec nous son verre en disant « Il y a eu Dupont de Nemours, je suis le Duponté de Namur ». Entre la bonne santé et la vraie vie, vous aviez choisi la vie, tous les deux. Je n'ai plus jamais, je crois, rencontré d'être plus vivant que toi, Jean-Claude. Et tu vois, j'ai envie de le dire au mou du bulbe rachidien qui officie au ministère de la Santé. Sais-tu, camarade, qu'ils viennent de lancer une nouvelle campagne de bourrage de crâne à la radio ? On y entend des gens joyeux se souhaiter une bonne santé et trinquer, comme toi et le curé de Marsannay, à la tienne, chin-chin, santé, chin-chin. Et là, une voix vient nous dire que c'est étrange de parler de santé en buvant de l'alcool, car l'alcool ne va pas avec la santé. Qu'ils sont tristes. Si notre santé, le récit primordial, pourquoi avoir organisé le désert médical dans les campagnes françaises ? Pourquoi, si la santé prime, mettre l'hôpital en faillite ? En réalité, c'est la vie qui n'aime pas. Ce sont les vivants comme toi, Jean-Claude, qui nous a pourtant quittés. Les clochards célestes, les buveurs aristocratiques, tous ceux qui ne rentrent pas dans les cadres orthonormés avec lesquels ils regardent le monde. ce ne sont pas des poètes. Dans Plis perdus, paru à la table ronde, tu écrivais, parlant des écrivains admirés, « C'est avec les morts que je m'entends le mieux ». Ajoutant plus loin, « Pour les morts, et j'en suis un, les vivants sont des fantômes. Daigne alors, mon ami, que le fantôme que je suis resté lève son verre, non pas à ta santé, mais à ta vie et à tes livres qui continuent de nous irradier, mais aussi à ces tristes individus qui nous rendent chaque jour plus nécessaires le vin et les livres, le partage et l'amitié. Chin chin, Jean-Claude. »
Merci Thierry Guichard pour cette célébration de la vie et du vivant à travers Jean-Claude Pirotte et qui, comme vous, mêlait l'amour du vin et des lettres.
Ah oui, c'est ça, un peu, ouais.
Eh bien, nous allons continuer à découvrir le vigneron Christophe Bousquet. En attendant, nous allons faire une première pause musicale. C'est vous, Christophe Bousquet, qui avez choisi le titre. Je vous laisse nous l'annoncer. Johnny Cash.
Johnny Cash, One.
C'est parti.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You said one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. It leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love. And you want me to go without? Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. Well, we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love the higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got when all you've got is hurt. One love, one blood, one life. You've got to do what you should. One life with each other, sister, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other, one, 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 one.
J- Johnny Cash, le choix musical de Christophe Bousquet, aujourd'hui dans Glouglou, avec nos deux chroniqueurs Thierry Guichard, la part de l'ange à Valras-Plage, et Frédéric Lambeuf, le picamandi, la puce à Licon. Vous êtes sur Radio Languedoc ou sur Radio Pays d'Hérault, RPH Sud, et nous découvrons le domaine Pêcheredon à Narbonne. Alors Christophe Bousquet, maintenant que nous vous connaissons un peu votre parcours, nous allons parler un peu de votre travail. Vous vous décrivez comme amoureux de la nature depuis toujours, chasseur iconoclaste, intéressé par l'agroforesterie. Vous avez tout de suite appliqué cette sensibilité à votre culture de la vigne, je crois. Comment cela s'est traduit dès l'arrivée à Pêcheredon ?
La prise de conscience, c'est d'abord parce que en formation viticole, dans toutes mes études, on avait des cours de viticulture où on nous expliquait tous les produits chimiques qu'on pouvait utiliser et on nous donnait même la dose, le prix et la marque. Ça a commencé à attirer un peu mon attention. On fait quand même des écoles, des formations de chimie à côté, donc on voit bien que tout ça n'est pas très sympathique. On est dans les premières prises de conscience autour des produits chimiques de la vigne. Et moi, j'arrive dans un domaine qui est au cœur d'un site classé, un des plus anciens de France, très protégé, qui va devenir plus tard Natura 2000 et faire partie d'un parc naturel. Et je me dis qu'il y a quelque chose qui est un peu contre-productif dans l'histoire. C'est comment peut-on cultiver des vignes chimiquement au milieu d'un environnement qu'on est censé protéger. Donc je m'intéresse rapidement à comment on peut alléger les doses ou travailler autrement. Et tout simplement, je me tourne vers ce que faisait plutôt la génération de mon grand-père et mon arrière-grand-père.
Plutôt que celle de votre père, quoi.
Oui, parce que lui, c'est un pur produit de la viticulture des années 70, très progressive, très basée sur la technique, où on nous explique dans les écoles d'agriculture que la technologie résoudra tout. Alors que j'ai un grand-père, un arrière-grand-père que je n'ai pas connu, mais un grand-père que j'ai connu quand j'étais jeune et qui m'explique que voilà, on peut cultiver des vignes sans pas grand chose et que on peut être en respectant la nature autour de soi, quoi.
Et c'est ce que vous faites, vous avez une forte attention à l'environnement de vos vignes. Je crois que les haies, c'est une des premières choses.
Oui,
que vous
faites, la première chose voilà. Sur laquelle je me penche, c'est les haies, en me disant que ça, c'est mon côté intérêt pour la nature. À travers la chasse à l'époque, un peu moins maintenant, mais en tout cas, je me dis, il n'y a pas de raison qu'on ait un désert autour des vignes. Et donc, je laisse se réinstaller les naturels autour de chaque vigne, parce que j'ai une idée un peu paysagère de l'endroit. J'ai envie d'insérer le vignoble dans le paysage, et pas que le paysage soit construit par un vignoble.
Très bien. Alors, petit à petit, vous avez, vous l'avez évoqué, diminué, baissé, voire abandonné les produits chimiques. Je crois que vous abandonnez assez vite les herbicides, les désherbants, les pesticides d'origine pétrolière, si bien que vous mettez à cultiver en bio et que vous obtenez une certification au début des années 2000
tout à fait.
De votre culture biologique de la vigne.
Ça se fait progressivement, sans une intention d'aller vers le bio, mais petit à petit, je me rends compte que je coche toutes les cases du bio, j'arrête les produits de synthèse, et donc je me dis, tant qu'à faire le pas, à sauter le pas, j'essaye de faire la culture en bio, et donc je suis certifié en 2005, je crois.
Vous, depuis, continuez à explorer les possibilités d'une agriculture biologique et vous vous intéressez notamment à la biodynamie, en prenant en tout cas dans la biodynamie ce qui vous parle et notamment ce qui vous parle et vous nourrit et vous intéresse. C'est ce qui vous ramène au travail du sol.
Oui. En fait, je suis avec un ami, œnologue, qui officie dans l'Hérault actuellement, et on a l'idée de faire un petit rassemblement de vignerons autour de Pierre Masson, qui était le pape de la biodynamie en Bourgogne, qui est un ingénieur agro de formation, et on fait une ou deux journées de cours avec lui, et ça me parle, ça m'intéresse, les cycles lunaires, je l'ai déjà entendu par mon grand-père, tout le monde l'a fait pour son potager, etc. J'accroche moins sur certaines idées de Steiner, qui est un peu le fondateur de la biodynamie, Mais le rapport au sol m'intéresse vraiment parce que je me dis, on parle toujours de terroir. Après tout, les vignes, tout se transmet par les racines. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce qui est dessous.
Donc, vous vous mettez à travailler le sol de manière particulière avec les composts, l'enherbement pour le nourrir, l'enrichir.
Je comprends grâce à lui. Il vient à Pêcheredon, je lui demande de venir passer une journée sur un vignoble avec moi. Et il m'explique comment on peut faire évoluer les sols, comment on peut les transformer, comment on peut passer d'un sol clair à un sol sombre, comment on peut influencer sur la vie du sol. Et la vie du sol paraît une évidence pour la vie de la vigne, quoi.
D'accord. Et donc ça passe par... D'abord, je crois que vous avez opté pour des enherbements semés, mais vous venez de plus en plus, je crois, à ne rien apporter et à respecter la nature telle qu'elle est. Je crois même que vous ne faites plus de plantations. Les haies, par exemple, vous déplacez des arbres, vous ne les plantez pas.
Oui.
Votre principe, c'est vraiment de rester
tout
dans l'environnement.
Tout doit venir de l'endroit. Je crois absolument à ça. Je pense que c'est absolument nécessaire. Et c'est une évidence que prône la biodynamie, mais qui n'est pas la chasse gardée de la biodynamie. Ça, c'est une évidence quand on est dans un milieu naturel. Pourquoi aller acheter des plants en pépinière pour faire des haies avec des espèces qui n'ont jamais poussé là? Alors qu'il y a plein d'arbres qui ont une vie... relativement limité en garrigue parce qu'ils sont en surpopulation à un endroit. Donc je passe mes samedis, mes dimanches avec mon pic à arracher des déjeuners, des cistes, des cyprès, et je les replante là où je pense qu'il faut qu'il y ait des arbres.
Très bien. Et la création du parc naturel régional de la Narbonnaise, vous l'avez évoqué, où je crois la lecture de livres comme « Mal de terre » d'Hubert Reeves ont renforcé vos convictions que vous devez aussi, à votre endroit de vigneron, agir pour la préservation de l'environnement et du climat. C'est aussi pour ça que vous faites ça, pas uniquement pour que vos vignes soient en bonne santé et qu'elles produisent des bons raisins.
J'essaye de faire sur le domaine ce qui me paraît une absolue nécessité pour nous. C'est pas le choix d'une certaine forme de viticulture. Je pense que quand on a un domaine viticole et un espace naturel à gérer, il faut essayer de réfléchir comment on peut le gérer le mieux possible en adéquation avec une logique la plus naturelle. Et donc je prends conscience assez rapidement de l'évolution climatique, des enjeux pour la viticulture languedocienne, et je me dis avant d'essayer d'aller expliquer aux autres ce qu'il faut faire, on va d'abord essayer de le faire chez soi et voir si ça marche. Donc je fais plein d'essais et en même temps j'essaie de d'éveiller conscience autour de moi sur une réalité dure à entendre, qui est une évolution climatique qui met en cause vraiment la viticulture en Languedoc, et puis une logique biodiversité qui est intimement liée à tout ça.
Et pour couronner le tout, vous travaillez aujourd'hui au retour du pastoralisme dans la Clape ?
Oui, depuis 10 ans maintenant. On a un troupeau là en ce moment qui pâture.
À l'époque, c'était 6000 brebis, je crois, dans la Clape. C'est une tradition qui...
La question, elle est simple. C'est que je me suis toujours intéressé. Il y a des gens aux universités de Montpellier qui ont travaillé beaucoup sur quelle était l'origine de la garrigue, qui n'est pas un milieu naturel, mais qui est un milieu issu du pastoralisme. Et donc, quand on est languedocien, on est intimement lié à la garrigue. Je me dis comment on en est arrivé là. C'est-à-dire que je me rends compte, en connaissant un peu mieux la Clape, qu'il y a 30 domaines et il y a 30 bergeries. Et il n'y a plus une brebis dans la Clape. Donc je me renseigne, je rencontre des anciens qui me disent jusqu'aux années 50, il y avait près de 6000 brebis dans la Clape. Et là, on me dit non, on ne peut plus mettre brebis dans la Clape parce qu'il n'y a pas assez à manger. Donc je profite du passage en Natura 2000 pour glisser dans le dossier que ça serait bien qu'on réinstaure un troupeau pour voir si ça marche. Et donc on arrive à trouver un système avec le parc naturel qu'on appelle la transhumance inversée. On va chercher un troupeau en Bourgogne en l'occurrence, et plutôt que de le laisser en bergerie parce qu'il ne peut plus pâturer en hiver là-bas, il vient dans le sud et il vient pâturer dans les vignes et dans les garrigues. Et je me dis peut-être que le troupeau va recommencer à faire ce qui a disparu, la réouverture des milieux, qui se sont fermés par l'embroussaillement parce qu'il n'y a plus de brebis, il n'y a plus de chèvres, il n'y a plus aucun animal pour... Donc ça règle aussi des problèmes vis-à-vis des chasseurs pour les sangliers, ça règle des problèmes pour les risques d'incendie. Et en même temps, je me dis, bah, si les brebis tondent les vignes pendant tout l'hiver, ça sera toujours ça d'heures de tracteur en moins.
Et est-ce qu'un jour, on peut imaginer que des fromages puissent être produits dans la clape ?
Ça, c'est mon rêve, oui. Oui, ça, c'est mon rêve. On peut pas dire qu'on y travaille, on y a réfléchi, c'est compliqué, mais tant que je pourrais m'y accrocher, je pense que je crois sincèrement que la viticulture est à un tournant et que on va pas pouvoir continuer sur ce modèle de monoculture et que l'histoire du Languedoc est basée sur la polyculture. La monoculture, elle est arrivée avec l'expansion de la viticulture dans le 19e siècle, qui était une source d'argent, et je ne vais pas le reprocher, mon grand-père a gagné très très bien sa vie avec des grosses productions viticoles. Mais aujourd'hui, on est à un tournant, et il faut revenir à une espèce de polyculture. Et la brebis est incontournable dans un paysage. La première fois que j'ai vu pâturer les brebis, et que j'ai rentré le troupeau avec le berger à 6 heures du soir, soleil couchant dans les garrigues de la Clape, vous dites, mais c'est tellement évident dans le paysage. C'est tellement évident. Et on voit à quel point, alors c'était intéressant parce que le gars travaillait sur des races anciennes, sur des races qui avaient été des races présentes en Languedoc, la Cossenarde des Garrigues, une brebis qui s'appelle comme ça, ça veut tout dire, la Rayole, des brebis qui étaient hyper adapté, qui bouffait du romarin, qui mangeait du thym, qui était capable de peler un genêt alors que c'est toxique. Et on se dit, mais pourquoi on a perdu ça ? Pour des raisons d'agriculture qui n'a plus sa place aujourd'hui. Alors évidemment c'est compliqué, évidemment c'est difficile à trouver un troupeau, trouver un berger qui veut bien rester dans un camping-car ou dans une caravane pendant 2 mois. Là c'est le cas, en l'occurrence c'est une bergère. J'étais hier avec elle, on a eu 10 naissances depuis 10 jours. Pourtant c'est les brebis qui viennent d'Ariège et elle m'a dit j'ai même plus besoin de m'occuper d'elle. On parlait et le troupeau est rentré dans le parc tout seul. Ils avaient 500 mètres d'avance sur nous. Donc je crois que ça fait partie des choses qu'il faut faire revenir.
Alors avant de pouvoir déguster les fromages de la Clape, on va passer à la chronique du verre à l'assiette de Frédéric Lambeuf. Alors on ne va pas parler fromage aujourd'hui, ça a déjà été le cas dans l'émission. Oui. Aujourd'hui donc on parle vinaigre pour assaisonner la salade qui ira avec le fromage.
Voilà, par exemple. Allons faire un tour dans le Roussillon, entre Port-Vendres et Banyuls, dans le hameau de Cosperon. Au creux d'un petit vallon où coule un ruisseau, encaissé entre bois et vignes, se cache une vinaigrerie artisanale créée en 99. Chandra, qui a grandi entre Berlin et l'Inde et qui a découvert le Roussillon à l'adolescence, a rencontré le vinaigre avant le vin. Elle a repris la vinaigrerie l'année dernière, après y avoir travaillé 10 ans, aux côtés de sa fondatrice Nathalie Lefort. Elle perpétue la tradition des vinaigres de Banyuls avec son équipe de 2 garçons, comme elle les appelle, et qu'elle connaît depuis qu'elle a 15 ans. Ils gèrent avec elle la production et les visites, elle fait le reste. La Guinelle est un lieu à part, un petit paradis bucolique, la seule vinaigrerie à ciel ouvert de France. Une étude scientifique européenne a révélé que la population de bactéries acétiques, présente ici, était d'une extrême robustesse. Vivant aux 4 vents, elles ont résisté à la chaleur de l'été et au froid de l'hiver, en se sélectionnant naturellement. Alors que des confrères connaissent parfois des soucis de production, les bactéries de la Guinelle font toujours leur job sans sourciller. À l'instar de leurs amis vignerons nature qui fournissent des lots pour les cuvées éphémères, le credo est le même. Il faut laisser faire la nature et bien sûr avoir la meilleure matière première qui soit. Car contrairement aux idées reçues, il faut du bon vin pour faire un bon vinaigre. Chandra profite des visites pour sensibiliser les gens sur ce qu'ils mangent, ce qu'on leur fait croire et ce qu'on leur vend, les intrants, les sulfites, tout ce qu'elle ne veut pas retrouver dans le vin qui fait ses vinaigres. Pour la production de vinaigre de Banyuls, la vinaigrerie se fournit auprès de la plus petite cave coopérative, les Dominicains, qui stockent pour eux du vin sans sulfite. Une 60aine de tonneaux de vin, remplis à moitié pour offrir la plus grande surface possible à l'air, sont stockés dehors sous une tonnelle. Les bactéries acétiques opèrent alors en transformant l'alcool en acide acétique. Elles travaillent au contact de l'air par la surface, formant un voile qu'on appelle mer. C'est vivant et très joli à voir. Après 4 à 6 mois, lorsque les vinaigriers estiment que le vinaigre est prêt, l'acide acétique étant au maximum à 6,5 degrés, ils prélèvent un quart du tonneau pour l'assembler dans une damejeanne fermée. Là, à l'abri de l'air, le vinaigre y vieillira sous le soleil entre 2 à 3 mois supplémentaires. Pour les recettes épicées, la vinaigrerie suit une recette du XVIe siècle qui consiste à faire tenir des épices dans un pochon entre la surface et le bouchon. L'échange d'arômes se fait alors tout en finesse par l'intermédiaire des vapeurs et non par infusion. C'est un peu un travail de moine, répétitif, où la nature impose son rythme. Chandra a donné l'exemple d'un client qui réclamait un vinaigre qui n'était pas encore prêt. les bactéries ralentissant l'hiver. Celui-ci avait suggéré de rentrer les barricots chauds pour redémarrer le processus. Et la réponse avait bien sûr été non, on ne change pas la méthode, le résultat ne pourrait bien sûr pas être le même. Malgré ce, elle a l'impression de toujours apprendre, car en observant, en étant attentif, on peut toujours découvrir de petits détails. Les cuvées éphémères ne sont jamais planifiées et se font au gré des rencontres. Elles apportent leur lot de nouveautés. La petite dernière est un vinaigre de vin de Nadia Verrua, la Bandita, dans le Piémont. À base de Grignolino, d'Asti, Chandra trouve qu'on retrouve les arômes floraux très particuliers de ce cépage dans le vinaigre. Ce lien entre le vin de départ et le vinaigre est très subtil à faire à la dégustation. Cela demande toujours une ouverture d'esprit pour le vigneron, qui doit oublier son produit, le vinaigre en étant un autre, différent. Au niveau santé, le vinaigre est un aliment richissime qui contient de tout. La vitamine B et D, des oligo-éléments, des enzymes et acides aminés, mais aussi du fer, du calcium, qui l'aide à absorber. Il est également réputé pour améliorer la vue, l'ouïe, la réflexion et la vivacité mentale. En cuisine, on l'utilise pour déglacer et réduire des sauces, ou comme très bon conservateur, et bien sûr en vinaigrette qu'on peut rendre original. Alors là, je n'ai pas donné de recette compliquée, j'aborde les vinaigrettes, mais on peut retrouver sur le site des recettes sympathiques avec le vinaigre. Donc, par exemple, l'idée 1 pour une vinaigrette originale, mélanger donc le vinaigre avec de la muscade râpée, poivre et pincée de fleurs de sel. Une autre idée, c'est émulsionner un peu de jus d'orange avec le vinaigre et de l'huile d'olive saupoudrée de genièvre en poudre et de menthe fraîche ciselée. Ou encore une vinaigrette avec un peu de curcuma et du gingembre frais râpé, une pincée de sel. Ou encore girofle en poudre, ail ciselé et fleurs de sel. Les visites de la vinaigrerie sont possibles du lundi au vendredi. Toutes les informations sur le site La Guinée, levinaigre.com.
Merci Frédéric Lambeuf pour cette nouvelle découverte gustative qui met nos papilles en éveil. Ça tombe bien, après la pause musicale, nous allons ouvrir et déguster les vins de Christophe Bousquet. Mais en attendant, on écoute Bruce Springsteen.
I got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. I look into your eyes, there's just devils and us. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. But you feel a dirty wind blowing, devils and us. But I got God on my side, I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing. It'll turn your heart black, you can trust. It'll take your God-filled soul, fill it with devils and dust. I dreamed of you last night, a field of blood and stone. Blood began to dry, the smell began to rise. Well, I dreamed of you last night, Bobby, in a field of mud and bone. Blood began to dry, smell began to rise. We got God on our side, we're just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing, turn your heart black, you can trust. It'll take your God-filled soul, fill it with devils and dust. Take your God-filled soul, fill it with devils and dust.
every woman and every man. Take a righteous stand. Find the love that God reveals and the faith that He commands. I got my finger on the trigger. Tonight faith just ain't enough. Look inside my heart. There's just devils in dust. Got God on my side. I'm just trying to survive. But if what you do to survive kills the things you love, fear's a powerful thing. Turn your heart black, you can trust. Take a God-filled song, fill it with devils and dust. Take a God-filled song, fill it with devils and dust.
Bruce Springsteen, le choix musical de Christophe Bousquet dans Glouglou avec nos deux chroniqueurs Thierry Guichard et Frédéric Lambeuf. Vous êtes sur Radio Languedoc ou sur Radio Pays d'Hérault RPH Sud et nous découvrons le domaine Pêcheredon niché dans le massif de la Clap à Narbonne dont nous allons à présent déguster deux cuvées. Et voilà, la première est ouverte. Merci Christophe Bousquet. Vous avez amené d'abord un blanc. Alors un petit mot sur cette cuvée.
C'est la Santoré Blanc, Santoré référence à la Santoré de la Clap, fleur endémique de la Clap et en voie de disparition. C'est un blanc qui est typiquement de la Clap puisqu'on est à 80% de Bourboulin. On est la seule appellation au monde à avoir le Bourboulin dominant et obligatoire. Et le reste, c'est de la Clairette en référence à mon pays d'origine. Donc Clairette du Languedoc et Bourboulin sûrement. Deux des cépages les plus anciens du Languedoc, qu'on pense être arrivés avec les Romains, qui ont tous les deux des origines de vin, de cépages sûrement italiens.
D'accord. Et quel type de vinification vous faites alors avec ces
Alors là, c'est une vinification en demi-muit, vinification naturelle, bien sûr. Après pressurage, on met les jus directement en barrique, fermentation naturelle, et après élevage pendant un an sur les lits de fermentation, on touche à rien, on laisse tranquille, et on met en bouteille au bout d'un an.
Oui, on n'a pas beaucoup évoqué votre travail en cave. Vous avez d'emblée vraiment suivi une approche très naturelle comme dans les vignes, puisque vous me disiez dès la deuxième ou troisième vinification, on est pourtant au début des années 90, vous nous avez raconté dans quel milieu vous avez grandi, vous étiez déjà en levure indigène, vendange à la main et en caissette, voilà, tout ça depuis le début des années 90. Quoi.
Oui, oui, oui. J'attaque en 88, vendange manuel en cagette. Et dès les années début des années 90, j'arrête de levurer parce que je vois que c'est pas absolument nécessaire. Et puis surtout, ça, ce qui m'intéresse, c'est de sortir des styles quasiment imposés par les marques de levure. Et donc, certains choisissent de faire des cocktails de levure. C'était à la mode dans les années 90, on mélangeait plusieurs styles de levure. Et puis moi, je m'aperçois que finalement, ça fermente tout seul. Donc, pourquoi aller mettre des levures, quoi.
Alors, je me tourne vers mes chroniqueurs pour parler de ce vin qu'ils ont dans le verre. Thierry, il n'y en a déjà plus beaucoup.
J'ai pas été bien servi, en fait. C'est ça le problème, c'est que j'ai à peine de quoi goûter, mais... Ça, c'est Fred qui m'a servi. Je pense qu'il ne voulait pas que j'en prenne trop. Non, mais c'est toujours sublime. La Santoré, moi, c'est un vin que j'aime beaucoup, vraiment. Une grosse gourmandise. En même temps, il y a une trame qui est vraiment très, très pure, très droite comme ça. Un peu de sucrosité, un peu de côté floral aussi. Et c'est quelque chose qui, voilà, moi, je trouve ça très éclatant, quoi. Et ça irait très bien, je pense, avec du fromage de brebis de la Clap.
Tout à fait.
Et puis on a l'impression de voyager un petit peu sur les lieux, en fait. Hein. On a un côté un peu crayeux, presque, oui. En fin de bouche. Il y a un côté salin, il y a les côtés florales de la Garrigue.
C'est... Oui.
On y est dans la clape.
Très beau vin blanc de la clape, donc la Santoré, domaine Pêcheredon. Alors nous finissons nos verres et nous allons passer, Christophe Bousquet, à la dégustation du rouge. Et donc la deuxième cuvée que nous avons la chance de déguster. Christophe Bousquet, alors qu'allons-nous déguster ?
Eh bien, la Santoré en rouge, puisque c'est une cuvée qui existe en blanc et en rouge. Et là, on est sur l'évolution de mes vins à Pêcheredon. Ça a été vraiment, dans les années 90, tourné essentiellement vers le Grenache. Je dirais le début des années 2000, tourné vers la Syrah, et aujourd'hui, véritablement tourné vers le Mourvèdre. Mourvèdre qui arrive dans la clape au moment où on passe en AOC dans les années 85, mais qui commence à être vraiment planté à la fin des années 90. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une vigne Mourvèdre que j'ai plantée quand je suis arrivé et qui est à pleine maturité et qui est vraiment le Mourvèdre face à la mer. Cépage tardif qui nous permet de cueillir à maturité sans les excès de maturité. Et donc là, on est sur un assemblage de 70% Mourvèdre, 30% Syrah, vinifié séparément, assemblé et élevé pendant à peu près 24 à 30 mois en demi-muit sur un millésime 19 qui est pour moi un peu l'aboutissement de ce que je cherche à faire depuis 20 ans.
Parce qu'il y a eu cette année-là, tout était bien réuni dans ce millésime
Oui, parce que millésime 19 est un très beau millésime dans la clape, mais aussi parce que sur le Mourvèdre, comme sur le Bourboulin, sur la cuvée d'avant, j'ai mis 20 ans pour arriver à trouver ce que j'avais envie de faire et pour y arriver, hein, parce que des fois on a l'idée, mais ça ne donne pas forcément le résultat qu'on escomptait.
Et quelle macération ? C'est des macérations
de... Là, on est sur des macérations de l'ordre de 6 semaines.
D'accord.
Mais des macérations qu'on appelle aujourd'hui infusion, hein, c'est-à-dire qu'on trie le raisin, on égrappe, on ne foule pas, on met en cuve et on fait juste un petit pigeage léger et on laisse macérer tranquillement sans intervenir, sans déstructurer le raisin. On laisse le jus pénétrer tranquillement sur la peau et au final, on obtient ce grain de tanin très poudré qui est typique du Mourvèdre dans les bons millésimes.
Thierry, Fred, un commentaire sur ce vin ?
Je trouve que c'est vraiment surprenant quand on goûte ce vin parce que le Mourvèdre peut avoir un côté austère, très vertical. Et là, on attaque avec un côté soyeux, une souplesse incroyable de l'attaque. Le fruit arrive après. Et la Syrah vient mettre ses petites notes poivrées en fin de bouche qui donnent envie de recommencer le cycle. Parce que là, on a vraiment une évolution pendant toute la dégustation. Et c'est vraiment surprenant ce côté soyeux du Mourvèdre en attaque comme ça. C'est d'une souplesse incroyable.
Je suis d'accord avec Thierry. J'aurais parié qu'il y avait du Grenache.
Oui. Non, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce qu'on recherche. Enfin, je pense que beaucoup de vignerons recherchent ça. C'est que... La fraîcheur d'un vin avec les maturités du sud. Si moi je veux pas renier le fait que je suis dans le sud, donc mes vins sont solaires obligatoirement, mais il faut qu'il y ait un peu de verticalité, il faut qu'il y ait de la fraîcheur, et je pense que c'est un cépage qui permet aujourd'hui d'arriver à ces fraîcheurs là malgré des maturités importantes et malgré de la puissance et de la rondeur.
Merci beaucoup, Christophe Bousquet, d'être venu vous raconter à ce micro. Frédéric Lambin, vous voulez raconter
quelque chose ? Non, c'était très rapide. Au niveau maturité, est-ce qu'il y a des choses qui changent par rapport au changement climatique, etc.
Clairement.
Parliez de fraîcheur, est-ce que vous vendangez plus tôt, par exemple ?
Non, justement, je crois que ça serait... C'est un long débat, hein, mais l'évolution climatique fait que les maturités sont de plus en plus précoces. Mais le problème, c'est que la maturité phénolique, on ne peut pas l'éviter. Et vendanger plus tôt, ça va être... il y aura forcément moins de sucre, moins d'alcool au final, mais le raisin ne sera pas mûr. Et donc on a des maturités phénoliques aujourd'hui qui sont plus autour de 14, 14,5. Et la fraîcheur, pour compenser cet alcool, la solution est dans le sol.
Merci, on aurait encore discuté des heures de vos vins tout en les dégustant. Malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. Merci encore de nous avoir fait partager votre passion, votre savoir-faire et de vous être raconté un peu à ce micro. Merci Frédéric Lambeuf et Thierry Guichard. Merci Nicolas aujourd'hui à la technique dans les studios de Radio Languedoc. Et mangez bien, buvez sain, on se retrouve le mois prochain. Hey! Tampoco bala, tu que truca, tu que tac, tu que toca, tu que diga, tu que raga, tu que diga, la runana bebe, mi luca petit capuri, en cuerico, tu que truca, tu que tac, tu que...